c'est à nous, Cataphile, de faire vivre le lieu. Et donc, si on décore une certaine salle d'une certaine manière, peut-être qu'un jour, elle aura un nom.
Est-ce que tu peux nous expliquer, juste avant qu'on démarre, la musique que tu nous passes
Donc, il y a notamment la bande-son originale de la super série d'animation française Last Man. Il y a certains sons tout droit sortis, on dirait, de films d'horreur. Et donc, je pense que ça participe un peu à l'ambiance.
D'accord. Et puis, en même temps, nous, ça nous fait un repère pour savoir où aller dans les galeries pour pas nous perdre.
Exactement, c'est pas à suivre le lapin blanc, mais à suivre la musique.
Un extrait de la bande originale de Last Man, l'excellente série d'animation de Jérémy Perrin, un thème composé par Avril et Monhay, une musique underground qui écoute, vous l'avez entendu, au 5e sous-sol de Paris, Alex, Cathy mais aussi Michael, et nos amis continuent avec Philippe, notre reporter, à explorer le 5e sous-sol.
On peut passer par là mais il y a trop de l'eau. Là-bas on passe par Cordonnerie mais c'est plus long.
Vous préférez pas?
Alors, on est déjà passé par là non?
Ouais.
Vas-y là-bas là.
Ok.
Ah ouais non mais alors là-bas. Moi je veux bien hein, mais c'est
pas. Et après c'est à gauche.
Ma squelette dans le mur.
De la moisissure.
Et des mâchoires accrochées, suspendues à.
Un lacet. Et il y a de la moisissure
à l'intérieur.
Ouais, une sorte de mousse.
Il manque quelques dents, mais il y a quasiment toute la dentition.
Ouais.
C'est les dents devant qui
c'est
manquent.
Les molaires.
On sait pas de combien datent ces os. Voilà, on va revenir vers le tunnel où nous étions. Je crois que là, on est perdu.
On est là.
Oui. Donc on va aller à droite. Ensuite ici il y a la salle Pi qu'on peut aller voir.
Ouais.
Après on redescend et puis on va aller là.
Et après on descend.
Attends.
Encore. Et il y a le Kabi.
C'est ça. Ça va par là.
Bah, il n'y a pas le choix je crois, parce que sinon c'est bouché.
On a fait une petite boucle.
Oh. Il semble énorme.
Je sais pas, j'ai déjà vu ça, c'est pas
du couchant.
Côté du couchant, ouais, on est déjà passé.
Je pense qu'il y a plusieurs plaques.
Ah oui, c'est peut-être ça. Le Kabi, il est tout droit, il y a un couloir très tout droit, et ensuite on y sera.
Oui.
Alors, je sais qu'en dessous, il n'y aura plus aucune plaque. On pourra plus se repérer.
Donc il y a plusieurs niveaux, en fait.
Exactement, exactement.
Donc là, on est au niveau de référence, c'est ça? Enfin, je sais pas s'il y a un niveau de référence, mais...
Non, on est au second niveau. En fait, plus on descend, bah, moins il y aura des plaques de rue.
Ça, ce cochon-là, il est très connu.
On raconte que c'est le premier graffeur qui l'a fait. On sait pas si c'est une imitation, mais si c'est un original, ça a plus de 200 ans, je pense. Donc le tout premier street artist va s'amuser à faire cette figure-là.
Bon, bah, on va rester ici.
On est bien, là.
Merci.
C'est bien.
Ah ouais.
On va...
Tranquille.
Okay. Bon, Philippe, on vous laisse dans vos catacombes. Si ça se passe mal, je m'occuperai de votre famille. Les catacombes sont des anciennes carrières, d'où nous avons remonté des minerais, calcaires, qui a fait Paris. Et Paris, maintenant, ce sont d'autres personnes qui la font. Paris est faite maintenant par les nightclubbers. Ce sont eux qui assurent une renommée internationale à notre belle capitale. Et normalement, Thomas est avec une reine de la nuit Thomas, avez-vous enfin réussi à retrouver Béa?
Oui, ça y est, Emmanuel, j'ai trouvé Béa. Bonsoir, Béa.
Bonsoir.
Merci de nous avoir retrouvés.
Oui, tout à fait, c'est un peu ma signature et c'est un côté très, très girly, très, très paillette, très, très bling-bling.
Non, mais qui êtes-vous, là? Vous n'êtes pas Béa. Vous êtes un usurpateur.
Si, je suis bien Béa. C'est pas parce que j'ai un nom de fille que je peux avoir une voix de fille. J'ai une voix masculine et c'est moi. Enfin, je suis bien Béa, en tout cas.
Voyez, Emmanuel, voyez que j'ai trouvé Béa. Voilà.
Thomas, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je suis désolé.
Vous êtes en train de nous planter l'émission.
Je suis fatigué, je suis épuisé.
Je vous rappelle, dans 10 minutes, ça sera votre dernier essai. On va tenter une connexion avec Hubert. Hubert, est-ce que tu me reçois? Non. Je n'ai pas de signal. Philippe, toujours dans les catacombes, certainement, je n'ai pas de signal non plus. Thomas, bah, pour l'instant, rien. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Pour l'instant, on n'a plus personne. Je me retrouve en carafe. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de duplex. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve en carafe? Eh bien, dans un restaurant, quand on attend, ce qu'on fait, bah, on sort son smartphone et puis on regarde les actualités, on regarde son fil Facebook. On est en duplex avec la vie, avec l'altérité, mais ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de smartphone sur moi. Par contre, j'avais prévu une pastille de secours au cas où il nous arrivait une telle carabistouille. Et la carabistouille, c'est maintenant.
Le soleil brille aujourd'hui sur Lamberton, la ville du bois. Alors à vos tronçonneuses, vous êtes à l'écoute de BOIS-FM, la voix de la ville du bois. Quand l'arbre s'abattra, il sera exactement 9h30. Il y a du sapin sur la planche, alors au boulot!
Là on entend une moissonneuse batteuse.
La campagne, je pensais que c'était calme.
La campagne, c'est pas calme. Là, ce qui est calme, c'est les lotissements. Que tu sois à la campagne ou en ville, c'est le lotissement est calme. La campagne, t'as les moissonneuses batteuses, t'as les chiens, t'as les gens qui taillent leur haie. Et des voitures à la campagne.
Est-ce que tu pourrais pitcher ton livre en quelques secondes? La trame.
C'est un homme qui rentre chez lui tard le soir et qui, sans faire exprès, tue une jeune femme qui était là au milieu de la route, enfin d'une toute petite route, qui ne sait pas, l'homme ne sait pas quoi faire du corps, il le met dans son coffre. Et il découvre le lendemain que cette femme a été visiblement enlevée par une espèce de tueur en série. Et donc il va vouloir rechercher ce tueur en série et refourguer le corps au tueur avant les flics. J'en dirai pas plus.
Ça se passe chez nous, en Amérique.
C'est ça.
C'est paradoxal, hein, ton livre, ça se passe dans la campagne, et le titre c'est quand même « Je serai le dernier homme ».
Ouais.
On n'imagine pas forcément l'apocalypse à la campagne,
non.
Au milieu des bêtes.
Non, mais lui c'est dans sa tête qu'il pense qu'il va être le dernier homme. C'est-à-dire que... Pour lui, il est le dernier homme de avant ce que... Avant la barbarie, avant ce que Macron et compagnie appellent le Nouveau Monde. Ce qui est complètement con. Enfin, Christophe Colomb appelait déjà l'Amérique le Nouveau Monde. Donc tout le monde appelle le Nouveau Monde au bout de 30 ans. Quoi, c'est le Nouveau Monde. Alors qu'il est, il évolue pas... Enfin, il change, mais il évolue pas tant que ça. Ce qui n'est pas la même chose. Mais pour lui, il va être le dernier homme. Quoi, avec ce que lui considère comme étant des valeurs, etc. Alors que tout se gomme autour de lui, quoi, mis à part que lui il n'a déjà plus d'essence ni d'existence pour les autres. Mais là, cette impression-là, je vais être le dernier homme et je vais arriver à sauver ce corps qui se décompose, quoi. Je vais arriver à le refourguer aux responsables et après à vivre ma vie. Il est un peu là-dedans. C'est bien, on parle de corps en décomposition, puis il y a une mouche qui tourne. Mm-hmm. Ce que les auditeurs ont peut-être entendu, c'est très amusant. Je parle pas que de sa campagne quand il imagine qu'il va être le dernier homme. Le titre original que l'éditeur a pas voulu parce qu'il trouvait que ça faisait trop long et puis c'est emmerdant après pour être référencé sur Amazon, c'était « Je serai le dernier homme vivant dans la ville qui s'éteint ». Et moi j'aime bien ce titre très long parce que la ville s'éteint puisqu'il va vivre à la campagne et il se considère encore comme... il pense qu'il va être le dernier homme vivant au milieu des usines qui s'éteignent, des grandes enseignes qui passaient 20 heures s'éteignent et donc il n'y a plus rien au centre-ville, etc., etc. Il pense qu'il va être le dernier homme là-dedans, ce qui est une illusion bien sûr.
Est-ce que tu vas nous raconter que tu te sens bien dans ce trou?
Eh, pourquoi pas? Je respire.
L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi?
Ah oui.
Ah merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être. She wore blue. Was the night softer than satin? Was the light from the stars?
Sur l'influence de Lynch, moi, Lynch, un cinéaste que j'aime beaucoup. Sur Blue Velvet, oui, le leitmotiv dans le roman qui est qu'il a une belle maison à la pelouse impeccable. C'est vrai que là, l'image initiale de Blue Velvet là pour m'avait beaucoup marqué quoi, effectivement ces belles maisons tout alignées à l'américaine quoi, avec de la pelouse partout et puis tout qui ronge, et puis on va descendre petit à petit dans la perversion sexuelle la plus crasse dans Blue Velvet. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est un film que j'ai vu assez jeune, je pense qu'elle est sortie ce film là 86-87, un truc comme ça. J'avais 12-13 ans quoi, donc je l'ai vu à sa sortie, je l'ai vu au ciné. Et ça m'avait beaucoup marqué, sans tout comprendre à cet âge-là. Mais déjà visuellement, déjà sur ce que ça voulait dire, hein, la surface et puis ce qu'il y avait derrière, etc. Bon, là, je trouve ça intéressant. C'est vrai que le concept et la question de « on va où ?» est quelque chose de... Je trouve que c'est la seule question viable dans le monde occidental. Quand on entend les discours politiques, quels qu'ils soient, bah, il faut avancer. Ouais, ok, il faut avancer. On sait vers où. Enfin, là, c'est toujours là. Il faut faire des réformes. Oui, mais vers où? Enfin, pourquoi? Enfin, il y a toujours une finalité qui n'est pas évoquée, qui n'est jamais évoquée. Pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je vais au zoo avec ma fille? Je veux lui montrer quoi? Lui montrer au zoo? En allant au zoo avec elle? Des félins? Bah, je prends un chat. Enfin, j'ai pas besoin d'aller au zoo. Enfin, tu vois. Puis il sera pas en cage. Il est domestiqué. Bon, voilà. Encore bon. Cette finalité qui moi m'étonne beaucoup et me questionne. Qu'est-ce qu'il y a à sauver? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Oui, il y a toujours quelque chose à sauver. Enfin, je suis nihiliste, je pense, fondamentalement. Je pense qu'il y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Et il n'y a rien pendant. Mais c'est justement pour ça qu'il y a tout à sauver. Tu vois, moi je pense fondamentalement que les nihilistes ou les gros pessimistes sont paradoxalement les plus gros optimistes. Parce qu'à partir du moment où tu ne crois en rien et à partir du moment où tu penses que tout est pourri, bah fais-toi plaisir quoi. Enfin, carpe diem quelque part, tu vois. Donc on passe de Blue Velvet au cercle des poètes disparus, ce qui est quand même improbable. Mais je pense vraiment qu'il faut profiter un maximum de cette vie-là, quelle qu'elle soit, quelles que soient nos conditions, avec ce qu'on peut en faire, nous, de façon quelque part très individuelle, mais sans briser l'autre. Et c'est là que vient l'écueil principal de nos sociétés à l'heure actuelle, qui se disent individualistes, mais qui ne le sont pas, parce qu'on est totalement régi par un système bureaucratique à la stalinienne, quoi. Mis à part maintenant, c'est les multinationales, c'est plus le Parti communiste, mais c'est pareil, c'est la même chose, qui régissent la vie des hommes et des femmes. Et on dit qu'elle est individualiste, mais elle est individualiste simplement dans le petit degré de liberté qui reste, et qu'on utilise simplement pour faire chier l'autre, et pas pour s'épanouir soi. Alors que l'individualiste, ça devait être je m'épanouis, j'emmerde personne, et puis mon voisin fait pareil, et puis on emmerde le Parti communiste et les multinationales, enfin tu vois. Et bah là, on n'est pas là-dedans, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de choses à sauver, je pense. Hein. Il y a tout à sauver, puisqu'il n'y a rien.
Voilà, c'était David Coulon, dont l'excellent roman Je serai le dernier homme est en vente dans toutes les librairies, mais aussi sur le net, bien sûr. On retrouve à présent Hubert. Thomas, non, ce n'est pas à vous.
Je vais faire croire à celui qui est en duplex en studio.
Thomas,
je suis avec Béa.
Thomas, on vous entend.
Oui, pardon, pardon, Manuel, oui, j'ai pas compris votre question.
Thomas, c'est à vous.
Bonsoir Béa.
Bonsoir.
Alors, c'est un plaisir de vous voir. Apparemment, vous transcendez les gens dans des soirées, vous jetez des paillettes sur les gens.
Ouais, c'est un peu le concept en fait. C'est pour donner une sorte de joie de vie. C'était un peu le but de ce genre de soirée-là, faire quelque chose qui ne se ressemblait pas pour attirer un maximum de gens. Et puis c'est comme ça qu'on a aussi attiré un public de tous les âges surtout. C'était ça qui était important pour nous.
Est-ce qu'il y a des milliers de gens qui vous suivent ou pas dans ce mouvement? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu penses que ça va devenir quelque chose d'énorme?
On était une toute petite équipe. Hein. On a commencé, on était très petits. On commence à se multiplier là au fil du temps. au fil des semaines, au fil des mois aussi. Et puis on espère que ça va se démocratiser entre guillemets, parce qu'on a envie justement d'accueillir un maximum de monde. Donc ouais, on espère qu'on sera une grosse équipe et qu'on pourra accueillir encore plus de gens quoi.
On s'aime, on se laisse des paillettes, c'est beau quoi.
Bah oui,
c'est beau.
Sur les temps qui courent, ouais, c'est important de faire ce genre de choses. Ça donne vraiment de la joie pour les gens et c'est ce qui nous importe le plus, je pense.
Vous voyez, Emmanuel Béa, voilà ce qu'elle dit, voilà, c'est beau, c'est sincère, c'est comme ça, c'est limpide, elle envoie des paillettes, elle envoie de l'amour et c'est beau.
Thomas, je crois que vous êtes toujours sur les quais. Je suis quant à moi dans l'espace VIP de mon duplex et devinez sur qui je tombe, hein, qui tape l'incruste. Eh bien, je crois que c'est Béa que vous cherchez partout.
Oui.
Ne la cherchez plus, elle est à mes côtés.
Oui, bonsoir.
Je comprends pas là, c'est quoi cette supercherie ?
Eh oui, elle est avec moi, en studio.
Oui, tout à fait.
Vous ne m'avez rien dit, elle était avec vous en studio, c'est ça que vous êtes en train de me dire.
Par contre, je vous laisse tout de même poser les questions que vous souhaitez à notre invité. Allez-y, Béa vous écoute.
Béa ?
Thomas, c'est vous ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ? Ça se passe bien ?
Eh bien écoutez, oui, beaucoup de plaisir d'assister à cette émission.
On se voit après l'émission ? Attends, ça c'est pas la bonne fiche, pardon.
Vous êtes coquin quand même.
Où est-ce que j'ai mis mes fiches, bordel ?
Oh, écoutez, je ne saurais répondre à cette question.
Excusez-moi, Thomas, de vous couper, je voudrais poser une question à notre invité. Pensez-vous que la vie est un multiplex ?
Je pense que la vie est une sorte de maison avec des fenêtres, des portes, des invités. Alors selon les vies des personnes, ça peut être un studio, un T2, un T3, et parfois oui, un multiplex pour les plus chanceux d'entre nous.
La vie en multiplex. La vie en multiplex. La vie. Principe actif. C'est la vie. La vie en multiplex. C'est la vie.
Allô Hubert ?
Allô, ouais, Emmanuel, je vous entends de toutes mes oreilles. J'ai un rendez-vous avec un artiste peintre, Thomas Petit. Je vais te laisser présenter, allons-y, présente-toi.
Eh bien oui, alors moi je m'appelle donc Thomas Petit, je suis artiste, et puis je dois avoir quelque chose comme 50 ans. Et puis je suis habitant donc de Rouen. Je suis vraiment dans une phase où j'ai un petit peu recentré mes préoccupations artistiques. Et là, je tourne vraiment autour du portrait, mais quasiment, je dirais, au sens classique du terme, tu vois. Des trucs vraiment dépouillés avec pas d'autres sujets que les sujets eux-mêmes. Je me rends compte que j'ai envie de moins en moins de faire ressortir des trucs. Il y a des gens qui visiblement ont pas du tout la même conception de l'expression artistique, hein, qui visiblement savent très bien où ils veulent aller, qui ont un discours derrière, qui est vachement structuré, qui est vachement important, ils ont des choses à dire. Et, alors je trouve pas du tout que ce soit idiot de faire ça, hein, mais je pense que vraiment, s'il y a bien un domaine où tout le monde peut faire comme il veut, comme il peut, c'est bien l'art. J'ai de moins en moins envie d'expliquer pourquoi, comment, etc. Et puis j'ai l'impression que je suis de moins en moins en capacité de le faire. En tout cas, ce que je me suis rendu compte, c'est que me libérer des éléments de contexte ou de discours, c'est une manière pour moi, je pense, de me concentrer plus sur des problématiques de peinture. Et je me suis donc posé ces questions-là il y a peut-être un an et demi, en me disant, mais en fait, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je fais? Bah ouais, je fais du portrait. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a nécessité? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de perturbation dans le fait d'intégrer des éléments qui sont secondaires par rapport au sujet lui-même, qui pour moi est le portrait, quoi.
Je trouve que ça serait marrant de te proposer de te présenter sous une forme un peu différente, en te demandant, par exemple, déjà, si t'étais un prénom, ça serait quoi ?
C'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que ce matin, j'ai signé des toiles que je venais juste de finir, qui n'avaient pas encore été signées. En fait, moi, je ne signe mes toiles que par mon prénom. Et alors, c'est fait de manière complètement involontaire, mais l'autre jour, j'ai un copain pince qui m'a dit, mais tu te la racontes quand même méchamment, parce que il y en a un autre qui faisait ça, c'était Van Gogh. Et c'est vrai, quoi. C'est vrai que Van Gogh signait juste Vincent. Mais c'est pas du tout pour ça que moi je signe juste Thomas, hein. C'est parce que, ouais, c'est mon prénom, c'est moi, ouais.
Si t'étais un âge.
Je te dirais que si j'étais un âge de la vie humaine, je serais à la cinquantaine, c'est mon âge. Pourtant, c'est un âge avec lequel j'ai finalement quand même pas mal de difficultés. Moi, j'aimais bien quand j'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, je trouvais déjà que j'étais trop vieux. Donc c'est tout le temps comme ça, en fait. J'ai l'impression que quel que soit l'âge, je vais toujours trouver que je suis trop vieux, mais en fin de compte, quand j'ai dépassé cet âge-là, je me disais, mais en fait, j'étais pas si mal à cet âge-là. Donc c'est sûrement que je dois être bien à cet âge-là, quoi. Donc, ouais, mon âge, ça va, quoi.
Si t'étais un tableau ?
En ce moment, c'est curieux, je me suis fait vraiment interpeller par un bouquin d'Olivier Rollin qui s'appelle Un chasseur de lions. La trame de l'histoire, ça se base sur un tableau de Manet où il a peint un type qui s'appelle Pertuiset, qui était un chasseur de lions. Et... bah, tu vois, pendant tout le temps où je lisais ce bouquin qui était vraiment passionnant... Bah, je pense que si j'étais un tableau, j'aurais été ce chasseur de lions que Manet a peint. Et il y a plein de tableaux de lui qui m'ont vraiment fasciné ces temps-ci. Notamment, par exemple, il a fait un tableau de ses parents. Tu vois, je pense à ça parce que moi, j'ai le projet là de faire un tableau avec mes parents.
Si t'étais une machine.
Oh là là, si t'étais une machine. Alors là, de but en blanc comme ça, je te répondrais, si t'étais une machine, je pense que je serais un télescope. Parce que ça, c'est un truc aussi qui me passionne carrément. T'as l'aspect purement contemplatif, c'est-à-dire visuel, tu vois, de voir les choses. Un truc comme les anneaux de Saturne, par exemple, mais c'est assez... tu tombes, quoi. Hein. C'est vraiment fou de voir les trucs comme ça, ou des tâches, les satellites de Jupiter, ou les pôles de Mars, enfin, tu vois, tout ce qui est nébuleux. Enfin, en tout cas, tout ce qui est le truc un peu primaire, genre ce que tu vois, vraiment, tu vois. Et puis derrière, il y a tout ce que ça amène comme question, justement, ouais, existentielle et tout ça. C'est des trucs qui peuvent vite te filer le tournis, voire qui peuvent vite te faire peur.
Si t'étais un animal ?
Ah, si j'étais un animal, ouais, je pense que je serais un chien. Je trouve qu'on est liés aux chiens, nous les hommes, vraiment. Hein. J'ai entendu des trucs carrément incroyables d'ailleurs aussi sur le rapport qu'on pouvait avoir avec ces animaux-là. Et des trucs, alors je sais pas si jamais je pourrais retranscrire vraiment ce truc-là, mais... J'ai entendu dire que si on parlait, c'était à cause des chiens, enfin grâce aux chiens en fait, parce que le fait qu'on ait domestiqué les chiens et qu'ils nous aient servi de nez pour dépister des trucs, hein, ça a permis que nous, on utilise notre nez pour autre chose que pour sentir, et notamment à le faire régresser de manière à ce qu'on s'en serve pour pouvoir parler. Et que donc l'apparition du langage chez l'homme serait liée, ouais, à la domestication du chien. J'ai un berger allemand à la maison, mais en fait j'ai choisi ce chien-là parce que j'en avais peur. Je me suis dit, bon, le meilleur moyen pour plus avoir peur du berger allemand, c'est d'en avoir un. Je me suis dit, bon, quand je vais le prendre et que ce chien aura deux mois, il me fera pas peur. Et puis bon, voilà, quand il va grandir, je vais m'y habituer, quoi, non.
Pour finir, si t'étais un arbre.
Bon, je sais pas pourquoi je répondrais à ça, mais je pense que je serais un chêne. Mais je sais pas pourquoi je dis ça. Ce qui est marrant, c'est que. Il y a une question que tu m'as pas posée, à laquelle j'aurais pu répondre. Tu m'as pas demandé si jamais j'étais une couleur, qu'est-ce que je serais comme couleur. Ah oui. Tu vois, c'est marrant. Hein oui. Bah, je serais du jaune, qui est ma couleur préférée. Et c'est assez bizarre parce que c'est une couleur qui est assez mal considérée. Le jaune, elle est très connotée défavorablement. Le jaune, c'est la couleur des cocus. Le jaune, c'est la couleur des casseurs de grève. Dans l'histoire syndicale, par exemple, quand t'es un jaune, c'est que t'es un casseur de grève. Les fous au Moyen-Âge, ils étaient habillés de jaune. Tu vois. Et puis l'étoile qu'on a collée sur la poitrine des juifs, elle était bien jaune. Toi, c'est une couleur qui a pas bonne réputation. Alors initialement, je crois que c'est parce que elle était constituée, tu vois, au début, quand on voulait la reproduire, elle était constituée par des pigments qui n'étaient pas stables. Un peu comme le vert, d'ailleurs, je crois aussi, qui pendant très longtemps n'a pas non plus eu très bonne réputation, le vert, parce qu'il était assez instable. Actuellement, dans notre époque, la couleur qui fait foi, c'est le bleu. Le bleu, tout le monde est d'accord avec le bleu, elle est très consensuelle. Le bleu, tu vois, ça fait pas peur, le bleu. Tu vois, le rouge peut faire peur, parce que ça peut être, tu vois, rattaché à certains courants politiques, le côté un peu violent, le côté... Alors, le vert, en ce moment, il revient en force, parce que avec tout ce qui est préoccupation écologique, tu vois, on se rend compte que des gens récupèrent le vert. Et alors, c'est marrant, parce que en tant que peintre, je sais que j'en avais parlé une fois avec un type qui me disait, oh, le jaune, c'est vraiment chiant, c'est une couleur qui est vraiment dure à traiter, parce que quand on la mélange avec d'autres couleurs, elle peut vite devenir un peu terreuse, un peu sale. C'est une couleur qui a la réputation d'être difficile à manier, le jaune. Mais moi, c'est une couleur vraiment que j'aime vraiment beaucoup.
Thomas, il est temps de reprendre notre chemin. Merci pour ce jeu avec ces questions insolites.
Mais merci à vous, hein. C'était vraiment, vraiment sympa de partager ce moment-là avec vous, de discuter de tout ça, c'était vraiment bien, quoi.
La vie en multiplex. La vie en multiplex. La vie. Principe actif, c'est la vie. La vie en multiplex, c'est la vie.
Écoutez, vous entendez ? Vous entendez la chanson ? Je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez moi, j'entends mes voisins. J'entends la musique de mes voisins, et parfois j'entends si fort que j'ai l'impression de déranger, comme là tout de suite. Alors je me mets à chuchoter chez moi, comme s'ils pouvaient m'entendre. Bon, je crois que Philippe habite dans un bel appartement, dans un quartier plutôt cool, et il m'a jamais parlé de problèmes comme ça. Et ce soir, je crois qu'il est parti, et il va tenter de dormir chez lui.
Emmanuel, je vais donc dormir chez moi, et redécouvrir ma rue, là où je vis, tenter de me réapproprier mon environnement urbain.
Fais comme si c'était la première fois que tu arrivais chez toi. C'est ça ce qu'il faut, c'est de redécouvrir sa rue, de se réapproprier son univers, son existence. Bah décris-moi ce que tu vois.
Je passe devant des arbres auxquels je n'avais jamais fait attention.
Ouais. Le couloir. Personne, pas de chien qui crie, hein, pas de chien qui aboie. Vous arrivez chez vous, là? C'est bien votre étage, hein, vous êtes certain?
Je sors de l'ascenseur comme un nouveau-né et me dirige vers chez moi.
Vous m'avez l'air tout tourneboulé.
Je sonne.
Faites ça doucement.
Il n'y a personne apparemment. Mais c'est pas grave, j'ai la clé.
Ne cassez pas la serrure. Doucement, Philippe, vous me faites peur. Calmez-vous. Voilà.
J'allume la lumière.
Détendez-vous, Philippe. Respirez.
Il y a un miroir. Je me vois. J'ai envie de me dire bonjour. Je me tends la main. C'est étonnant. Nos mains sont tendues.
Calmez-vous, ok?
Je n'arrive pas à rentrer en contact avec moi-même.
Vous n'êtes pas tout seul. Je suis là. Les auditeurs sont là. Ils vivent aussi. Ils ont leur propre vie. Hein, on est tous ensemble en multiplex, en train de partager la même expérience qui est celle de l'existence. Et j'appelle à présent tous les auditeurs de cette émission à faire en sorte que nous changions d'existence immédiatement. Arrêtons de vivre en multiplex, vivons de façon simplex et allons sans complexe sortir dans les rues. Faisons la grosse folie, pas besoin de BA pour nous ambiancer avec des paillettes. Non, le dawa, on peut le mettre nous-mêmes. Donc on va tous sortir, si vous écoutez cette émission en voiture sur vos autoradios, bien vous arrêtez tout de suite hein, sur le bas-côté, hop, vous descendez et vous vous mettez à danser, à faire du bruit parce qu'on est dans le final de l'émission. C'est la libération, on n'a plus besoin d'écouter cette émission. Libérons-nous de nos chaînes, vivons dépoitraillés, vivons heureux et chantons, chantons la liberté d'être, tout simplement. La vie en multiplex, c'est fini pour ce direct. Je vais tout de suite dans la rue pour vous retrouver les auditeurs et on file faire la teuf. A tout de suite. Du studio, voilà, je suis en duplex avec vous toujours. Il y a une ambiance très très étrange. Je sais pas si c'est vraiment ce que je crois. Si c'est ça, c'est génial. Est-ce que tous les auditeurs qui nous écoutaient en autoradio klaxonnent comme des fous? C'est peut-être ce qui se passe. Attendez, en face de moi il y a Philippe. Philippe,
qu'est-ce que vous faites là? C'est inimaginable.
On a peut-être fait un truc de fou là, Philippe. On a peut-être fait un truc de dingue. Je sais pas, là je me demande si on a pas fait une grosse connerie. C'est pour nous tout ça, Manuel, hein. J'en peux plus là. Je me sens tellement énorme.
Cette émission est un succès, faut le dire.
Et la révolution, hop, c'est pour demain. Hein. On peut y croire maintenant.
Calmez-vous, on est juste en finale. Hein.
Quand je vois tout l'engouement des gens qui sont heureux d'être arrivés en finale,